David Lewis avait une énorme barbe et il est mort en 2001. L'une des photos les plus célèbres qu'on ait de lui a été prise en Australie. Il pose au milieu du bush, au pied d'un panneau tropique du Capricorne. On disait de lui, dans le petit milieu de la métaphysique, que c'était le plus grand métaphysicien qu'on ait vu depuis Leibniz. On disait aussi, à cause de la photo, qu'il était australien, ce qui n'était pas tout à fait exact, il était américain. Mais il avait pour rival et pour partenaire principal un authentique philosophe australien, un natif de Melbourne, nommé David Armstrong. Je me rappelle mal de ce qui les opposait, j'ai le schéma entreaperçu dans une bibliothèque d'une molécule de méthane en forme de croix qui s'interpose et qui devait servir d'exemple pour en appeler à l'admission d'universaux structuraux, seuls capables de différencier cette molécule d'un autre hydrocarbure qui possédait lui aussi 4 atomes de carbone et un atome d'hydrogène. Tout cela est aussi ancien, ensommeillé que le morceau de cire de Descartes. Je me souviens enfin, et c'est à peu près tout, que David Armstrong défendait la théorie des troussemakers, intéressant renversement épistémologique, qui faisait des objets du monde non plus des entités premières, mais les vérificateurs de nos théories. C'était séduisant, exotique et antipodal, mais j'étais plus séduit par la radicalité de l'autre David, David Lewis, dont j'avais entrepris de lire l'œuvre maîtresse de la pluralité des mondes. Le pluriel du titre était à peine plus extravagant que l'existence d'une école de philosophie australienne. On savait depuis Mad Max que c'était là-bas que la civilisation devait finir, et c'était pourtant ici que la métaphysique avait ressuscité, miracle encore plus prodigieux que celle de la conservation des écrits d'Aristote et de Platon à Bagdad, à Damas et Cordoue. Des questions plus jamais débattues depuis le déclin de la scolastique, des débats passionnés sur les futurs contingents et la nécessité divine que l'époque moderne avait cru refermer, des concepts oubliés depuis Duns Scot étaient donc réapparus là-bas, et la dispute entre les deux David m'avait encore plus enchanté que quand j'avais suivi 10 ans plus tôt les aventures intrépides de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Qu'il y ait une école australienne de métaphysique, c'était encore plus merveilleux que la déterritorialisation de Deleuzienne. Je savais que David Lewis, le barbu, l'américain, avait été l'élève de Quine. Être un métaphysicien de génie après Quine, défenseur acharné de la relativité de l'ontologie et cousin d'Amérique du thésée Wittgenstein, c'était encore plus héroïque que de devenir Hegel après les 3 critiques de Kant. Mais le prodige ne s'arrêtait pas là. Lewis était le premier philosophe à prendre le concept de monde possible au sérieux. Il existait, pour Lewis, autant de mondes qu'il existait de possibilités. La chose a l'air incongrue comme cela, mais c'était, pour Lewis, une façon de simplifier la métaphysique, de lui appliquer strictement le rasoir d'Occam, d'y admettre le moins d'entités possibles, et il parvint ainsi à l'exploit inégalé de les réduire à 2, des points dans l'espace-temps et des mondes dans l'espace logique. Avant Lewis, on était par exemple encombré par le concept de loi, de régularité, de cause. Il existe pour Lewis des configurations, comme au jeu de Go, qui donnent d'autres configurations. Mais comme tous les mondes possibles existent, non seulement toutes les configurations inimaginables sont disséminées à travers l'espace logique, mais surtout n'importe quelle configuration peut donner, au coup suivant, n'importe laquelle. Cela semble ahurissant, mais ce n'est que la vieille théorie de Hume, simplement reformulée. Rien ne garantit jamais que le soleil se lèvera demain. Et s'il se lève bien, la seule conclusion logique qu'on peut en tirer, c'est que nous sommes dans le monde où il s'est levé ce jour-ci. Lewis, et son coup de génie principal est sans doute là, a réussi à rabattre les modalités, le possible et le nécessaire, sur quelque chose de très intuitif, un simple rapport d'accessibilité logique entre les mondes. Sera nécessaire ce qui est vrai dans tous les mondes, possible que ce qui ne concerne qu'une partie de cela, de faire que tout ce qui peut exister existe, supprime d'un coup tous les désagréments de la contingence, en conservant le caractère précieux du possible. Comme disait autrefois Duns Scot, celui qui ne croit pas qu'il existe des choses possibles, celui-là, il faudra le fouetter jusqu'au sang. C'est sans doute excessif, mais c'est à Lewis et non à cet épisode de torture imaginaire que je dois d'avoir renoncé au fatalisme de mes années d'adolescence.